Bulle Mécanique sur Radio Primitive, votre rendez-vous culturel 100% rémois.
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission de la Bulle Mécanique. Aujourd'hui, on est en effectif réduit parce que je suis seulement avec Tom.
Bonjour, bonjour, mais aujourd'hui Tom remplacera Couscous.
Couscous, Mélanie, enfin toute l'équipe.
Couscous, Mélanie et Maëva aussi, qu'on salue.
Peut-être vont-ils revenir un jour, on ne sait pas.
On ne sait pas, hein. Peut-être survivront-ils à l'hiver, hein. C'est la surprise pour 2026.
On verra bien. Aujourd'hui on reçoit un groupe, Karaboudjan, je ne sais pas si je le prononce bien.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Comme ça c'est écrit quoi.
Salut.
Salut les gars, ça va ?
Salut. Ça va bien.
Ça va bien.
Comment jeudi ?
Comme jeudi, oui, c'est vrai qu'on est jeudi. Et ben, content de vous recevoir dans cette émission. Est-ce que pour commencer, vous pouvez présenter déjà un peu le groupe, vous présenter vous aussi ?
Ouais, bah merci de nous inviter.
Avec plaisir.
Ouais, présenter le groupe, on peut. Moi, c'est Rafi. Je fais de la guitare, je chante, je compose, j'écris les textes. Je fais la promotion, je fais tous les trucs relous liés au groupe. Voilà, mais je suis pas tout seul dans ce groupe.
Oui, je vais dire les autres font quoi.
Il y a donc aussi Phil et Pimpon qui vont se présenter.
Alors oui, donc Phil, Philippe.
Enchanté.
Enchanté.
Enchanté Philippe.
Voilà, donc moi je suis le batteur du groupe aussi.
Compositeur, arrangeur aussi malgré tout. Hein.
Ouais, malgré tout, mais...
Malgré voilà. Le fait que tu sois juste batteur.
Voilà.
Choriste.
Choriste, effectivement. Et puis, et puis toutes les bidouilles informatiques, Ableton Live et compagnie, tous les sons additionnels. Voilà.
Ok.
Voilà, qu'on travaille en amont ensemble, évidemment.
Oui, bon, on reviendra peut-être là-dessus et... sur le côté live, sur le fait qu'on n'est que 3 ou 4 sur scène, mais qu'on peut avoir le son de 10 si on veut, quoi.
Ok.
Et moi ?
Et toi, le dernier.
Et moi, c'est Pimpon, John McLaughlin, comme on appelle.
Exactement,
dans ce
c'est John, on t'appellera John d'ailleurs.
Ouais.
Et je fais de la basse.
Ok.
C'est
voilà.
Tout.
Donc, un trio, quoi.
Ouais, alors trio, mais on joue régulièrement à 4 aussi.
Ouais, voilà. J'ai vu que vous aviez un deuxième batteur de temps en temps sur scène.
Voilà, parce que pourquoi pas.
L'émission. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Deux batteries, c'est original.
Oui, oui, bon, c'est dans le but de se faire détester des ingé sons.
Ah ouais, aussi.
D'abord, avant tout. C'est et puis cool. Après, dans le but de péter les oreilles de tout le monde, surtout.
Ouais, ok. Pour la petite présentation, c'est ok, mais vous êtes rencontrés quand ? Comment ?
Et bien, alors, en fait, Karaboudjan, à la base, c'est un duo, donc Phil et moi. Ça fait quelques années, là, maintenant, qu'on est en trio et quartet aussi, par moment. Mais oui, à la base, pendant quand même 2-3 ans, on a tourné à deux. Comment dire, en fait, on joue dans des groupes ensemble avec Phil depuis des années, dans d'autres projets musicaux. En fait, on est de la région de Château-Thierry. En fait, le milieu musical est déjà petit partout, mais alors encore plus dans une petite ville comme Château-Thierry. Ouais. Du coup, en fait, de fil en aiguille, on finit par monter un groupe et par... voilà, l'histoire très classique. Hein. C'est juste qu'en fait, on se connaissait et on jouait déjà ensemble dans d'autres groupes, quoi. Et puis, en fait, là, on a voulu faire du rock'n'roll. C'était vraiment, vraiment l'idée, quoi.
C'était pas le cas dans les autres groupes.
Bah si, mais pas pareil.
D'accord.
Pas avec les mêmes influences.
Ok, et comment vous êtes retrouvés à trois alors ?
Bah ça c'est le côté alors, un peu technique.
De Pimpon.
Le côté un peu technique, c'est que du coup on jouait à deux. Donc moi guitare, chant, et Phil faisait batterie et machine, c'est-à-dire qu'on avait un ordinateur qui tournait et qui envoyait des séquences, donc des sons qui tournent. En live, de basse notamment, et puis de synthé, de chœur, enfin plein de trucs qui fait que du coup on n'était pas que. Le ressenti sur scène, on n'a pas l'impression d'avoir un duo quoi.
D'accord.
Mais du coup ça demande énormément de boulot de préparation en amont, de programmation, de machine, de machin, ça demandait vraiment beaucoup de boulot. On l'a fait pendant des années, mais ça a été quand même un gros boulot, on s'est quand même posé pas mal de questions. Et puis en fait, à un moment, on s'est dit que pour le style qu'on faisait, qui était quand même vraiment garage rock, 60s, qui est quand même une niche dans la niche. On pouvait pas avoir un bassiste joué par un ordinateur.
Ouais, ok.
Voilà. Oui. Donc, du coup, on a appelé John et John a couru.
Ouais, à la base, c'était juste pour un enregistrement.
Tu t'es fait piéger.
Et en fait, ouais. Il m'a dit, oh, tu vas rester. Bon, d'accord.
Ah ouais, t'as
pété. C'était un peu. C'était
on a trouvé que ça groovait quand même un peu plus.
Ah, voilà.
Voilà.
Oh, la magie.
John le groove, McLaughlin.
C'est ça.
Ouais. Ah, puis j'imagine en plus en live d'être obligé de suivre la machine, etc.
Bah, on est toujours obligé de suivre la machine, parce qu'en fait, on joue quand même toujours avec un ordi. On a toujours des métronomes dans les oreilles et machin.
Non, pas d'accord. Moi.
Pas toi. Oui, non. C'est vrai. Mais n'empêche que c'est quand même pas le même délire d'avoir Avoir un métronome qui guide le groupe, c'est hyper classique. Hein. Ouais. Il y a vraiment plein de batteurs qui jouent au métronome. Enfin, voilà, ça empêche pas le groove. Mais d'avoir un métronome plus une basse qui est déjà hyper rigide, ça laisse vraiment pas beaucoup de place au flottement. Quoi. On est vraiment sur un truc très rigide, alors que nous, on est quand même dans un style qui se veut hyper joué, hyper live, et avec aussi pas mal d'imperfections de musiciens. Si c'est trop... ça donne un style, hein, mais c'est un autre style. En fait, c'est pour ça que le début de Caraboudjan sonne pas pareil que le Caraboudjan actuellement. C'est aussi parce que le style s'est affiné. Et malgré tout, je pense que le fait de jouer moins au métronome, enfin toujours métronome, mais de jouer plus live et avec une vraie basse et machin, ça laisse quand même un truc qui est beaucoup plus dans l'imaginaire 60s, beaucoup plus dans ce qu'on voulait faire en fait, peut-être, enfin qu'on savait pas qu'on voulait faire à la base, mais que maintenant on veut faire et on sait.
Ok, c'est très clair.
Ouais, c'était pas clair du tout.
Non,
mais
si c'est très clair.
Mais je suivais mon chemin dans ma tête et je l'avais.
On a compris. Et non, depuis le début de Caraboudjan, d'ailleurs, vous avez sorti plusieurs EP, c'est ça?
Ouais, on a fait un EP en 2022 qui s'appelle La Lagune.
Ouais.
Sur un petit label qui s'appelait Blackfish Records. Voilà, c'était 4 titres. On a fait 2 clips dessus. Et c'était en 2022. Et puis là, du coup, on vient de sortir un double EP, globalement un album, là, en 2025.
Moi, je vous propose de déjà passer un morceau pour voir un peu ce que vous faites.
Ouais, carrément.
Si ça vous va.
Allons-y.
Je sais pas quel morceau.
Le premier qui ouvre l'album, ça peut être bien, La Pirogue.
Et c'est parti. On en parle après.
Ça marche.
En plein dedans, celle de l'arbre de la pirogue. Il paraît que t'étais en plein dedans, il paraît que t'étais en plein dedans, il paraît, il paraît. Et si c'était pareil au fond, le bois de l'arbre de la pirogue, tu sais. Il paraît que t'étais en plein dedans, il paraît que t'étais en plein dedans, il paraît, il paraît. Et si c'était pareil, le bois de l'arbre ou de la pirogue.
Et de retour dans la bulle mécanique avec Caribou de Jean, on vient de s'écouter La Pirogue. Et effectivement, ça sonne très 60s. Tom, t'en as pensé quoi ?
C'était un très bon son, hein. Un bon son d'introduction. Très, très satisfait de ce morceau.
Ok.
Cool.
Et les paroles, par contre ? Qu'est-ce que c'est ?
Allez, par contre, c'est pas terrible les paroles.
Non, c'est pas ça. Non, non, pardon, excuse-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Est-ce que tu... Ouais, je la refais. Hein. Est-ce que tu peux nous parler des paroles, Rafi ?
Ouais, bien sûr. En fait, La Pirogue, ça vient d'un proverbe. Alors, moi, j'avais dit amérindien, mais je me suis fait reprendre par un journaliste québécois qui m'a souligné qu'en fait, c'était pas terrible de dire amérindien.
Pourquoi ?
Alors, je fais une digression dans la digression, mais je t'explique.
Ouais, okay.
que amérindien, en fait, c'est un terme qui est un peu colonialiste, en fait.
D'accord.
En fait, là-bas, bah, du coup, ils y sont confrontés, hein, au Canada, si tu veux. Et en fait, ils parlent plutôt de population indigène ou autochtone, et qu'en fait, amérindien, c'est un terme vraiment de colonial.
Okay.
Si tu veux, enfin de colonie, quoi.
Ethno-centré, quoi.
Voilà, ouais, c'est un terme d'homme blanc dominant, tu vois. Mais bon, c'est pas du tout c'était pas le sujet. Mais du coup, ça vient d'un proverbe donc autochtone, on va dire, qui dit que l'homme dans sa vie est tiraillé entre deux besoins, le besoin de l'arbre qui correspond au besoin de l'enracinement, de rester près de sa famille, voilà, donc ses racines, on comprend l'idée. Et le besoin de la pirogue, donc le besoin de l'évasion, du voyage. Et que du coup, mais c'est avec le bois de l'arbre qu'on fait la pirogue, donc que l'un ne va pas sans l'autre, évidemment, quoi. Donc je sais pas, ça m'avait inspiré, je trouvais que c'était un truc qui était très, très musical, très, ça pouvait très coller à une esthétique un peu 60s, un peu flower power, donc c'était l'idée un peu directrice de ce morceau. Puis après, voilà, une musique très garage rock 60s, avec des influences un peu woo,
ouais.
Voilà, mais chanté en français.
Avec un petit synthé derrière.
Ouais, c'est un petit orgue, c'est un orgue, ah, c'est bien, un orgue bien vintage, ouais. En fait, on a enregistré ça, tout l'EP Garage Love a été enregistré, donc pas très loin d'ici, au studio Roots Vibes, à Mailly-Champagne. Et du coup, tout vient un peu de... Tout est un peu dans cette veine-là, dans cette mouvance vraiment, vraiment vintage, quoi. Si tu veux dire, si tu veux en parler un peu.
Oui, du coup, au studio Roots Vibes, ben, c'est Geoffrey, Mr. Hayes, qui... nous a enregistré. Donc en fait, il a un studio à Mailly-Champagne où il a vachement bossé sur le son de sa pièce, les types de micros, le son de la batterie, etc. Donc en fait, il a une vieille batterie qui sonne vraiment assez années 60. Il a des cymbales aussi qui sonnent années 60, des micros. Il y avait même un vieux micro là, le Mélodium.
Carrément,
c'est le micro du général de Gaulle, quoi.
C'est ouais, vraiment, voilà. Okay.
Non mais vraiment, vraiment, c'est un gros micro qui était là au-dessus de la cymbale ride, entre la cymbale ride et le tom bass. Donc en fait, dans son idée, c'était de faire une prise de son un peu comme ça se faisait aussi. Donc tout le monde dans la même pièce, pas de métronome dans les oreilles et pas non plus de collage entre différentes prises. C'est-à-dire, par exemple, tu fais trois prises du même morceau et tu te dis, tiens, on va prendre le couplet de la deuxième prise, on va prendre le refrain de la troisième. Même ça, ils voulaient pas trop le faire, ils voulaient qu'on garde la fraîcheur, l'énergie première d'une prise, quoi, d'être dans le...
Comme si vous étiez en live. En
c'est ça, ouais. Bah, avoir un côté live, mais pour l'enregistrement, et c'est pas évident parce que dans le live, il y a toujours un peu des défauts, tu peux accrocher un petit peu de temps en temps, et là, il faut quand même essayer de pas accrocher parce que tu enregistres. Donc c'était un peu le challenge, et puis moi je parle de la batterie par exemple. Même les cymbales, parce que lui il avait vraiment travaillé ça sur son son de batterie, donc en fait il m'a même passé les baguettes avec les olives qui vont bien sur son réglage à lui, etc. Donc il voulait essayer de voilà, retrouver un petit peu un truc qu'il a éprouvé avant, parce que sinon ça, tu passes aussi beaucoup de temps à essayer, on peut pas non plus y passer 15 jours ou 3 semaines ou un mois, on n'est pas Led Zeppelin non plus, quoi. Mais voilà. Et bah du coup, c'est intéressant parce que voilà, c'était de rechoper un petit peu ce son là qu'on aime bien.
En fait, c'est un gars vraiment qui a une vision de la production 60s. Lui, il est assez fort là-dedans et assez, comment dire, il est obstiné presque. Mais du coup, c'est ce qui fait sa force, c'est qu'en fait, il est vraiment dans un délire où il veut que ça ressemble le plus à ce qu'on pouvait faire dans les années 60, sauf que on enregistrait quand même sur un ordinateur.
Oui.
Mais le fait est qu'il voulait qu'on enregistre dans les mêmes conditions. Donc voilà, comme il disait, pas de métronome, etc. Tous en live, tous dans la même pièce. Mais voilà, la batterie, classiquement, une batterie en studio, on met facilement 10 micros. Mmh. Et là, non, la batterie, c'était 4 micros. Et avec l'ampli basse en face qui est repissé dans le micro grosse caisse parce que c'est comme ça que tu auras le meilleur son. Voilà, la guitare un peu à l'écart. Voilà, il y avait tout un truc. On a quand même fait, par exemple, la voix à part. Pardon. On a quand même fait la voix à part. Ou quelques overdubs, donc quelques quelques prises qu'on enregistre quand même après la prise principale. Mais le gros tient dans un live de guitare, basse, batterie sur une prise, quoi. Et il voulait vraiment avoir ce truc pour essayer de coller au max à ce que ça peut sonner. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un tout. Si on veut sonner années 60, il faut... Il n'y a pas le choix.
Les conditions.
Ouais, en fait, malgré tout, c'est un workflow, comme on dirait en anglais, quoi. C'est une manière de fonctionner qui fait que... qui se fait que ça va sonner vraiment années 60, c'est de le bosser un peu comme il le faisait. Parce que bon, t'as beau avoir un ampli guitare un peu qui sonne un peu vintage, machin, si tu lui mets un micro qui rentre dans un ordinateur que tu traites et que tu surtraites derrière, ça sonnera jamais comme à l'époque non plus, quoi. En fait, il y a un truc un peu de minimalisme auquel c'était hyper intéressant de revenir, en fait. Et du coup, on est vraiment sur le jouage des musiciens et on s'est aussi pris la tête sur le réarrangement des morceaux.
Oui.
C'était ça qui était le plus dur, c'est qu'en fait, nous, on est arrivé avec des morceaux déjà prêt, et en fait il nous a dit bah non les gars là ça franchement dans les années 60 ça se faisait pas, là tu as un couplet
pendant l'enregistrement vous avez
avant l'enregistrement on a travaillé avec lui pour réarranger les morceaux, et c'était hyper intéressant parce que il a vraiment cette vision de l'expert, parce que voilà, c'est une espèce de mine d'or musicale le gars, et en fait il connaît vraiment, quoi.
Et discographie de malade.
Il sait de quoi il parle, quoi. Un spécialiste de reggae à la base, mais en fait, moi je pensais qu'il était spécialiste que de reggae, et au final,
en
rock, c'est un fan d'Hendrix de ouf, et il connaît tout, quoi. Enfin, le mec est très très chaud, quoi.
De jazz aussi, enfin, il en connaît un,
un rayon, quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment un passionné, c'est vraiment un passionné de ouf, et du coup, bah, ce que j'ai aimé, moi, dans cet exercice-là, c'est qu'il faut apprendre à aimer les défauts. C'est-à-dire que, en plus, nous, on se veut garage rock, et en fait, le garage rock, c'est une musique pleine de défauts. C'est quand même des mecs qui ont fait de la musique dans leur garage, dans le garage de leurs parents, avec des guitares à $15, tu vois. Enfin, c'est
ça vient d'un milieu modeste.
Ouais, mais tout participe au son garage rock. C'est-à-dire que t'as une acoustique pourrie, t'as un micro pourri dans un endroit pourri, avec une guitare pourrie, tu vois.
Mais pour avoir un son propre.
Mais en fait, à la fin, mais en fait, le son est pas propre, mais c'est pas grave, en fait.
Ouais.
C'est parce que, en fait, ça fait partie de l'ADN.
Ça fait partie du charme, c'est ça,
voilà,
c'est l'ADN, comme tu le dis.
Bah, comme pourquoi t'aimes bien écouter un vinyle, qualitativement, c'est moins bien, mais pourtant, t'as un charme, t'as le charme du truc analogique.
Le son du vinyle, ouais.
Voilà, c'est ça.
C'est dans une osmose.
Et du coup, bah là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on s'est un peu pris la tête sur ces trucs-là, et aussi, ça fait du bien de. Moi, c'est un truc, je suis presque militant là-dessus, mais de sortir du son aseptisé où tout est parfait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, n'importe qui, avec un ordinateur, peut enregistrer n'importe quelle musique, et c'est très bien, tant mieux que ce soit démocratisé et que tout le monde puisse le faire. mais aussi c'est facile que tous les morceaux sonnent pareil. Parce que tout le monde a les mêmes techniques de mixage, d'enregistrement, et tout le monde met sa guitare dans sa carte son en direct et a les mêmes plugins, et en fait ça sonne pareil à la fin. Et c'est très bien, on peut faire des choses très bien, ça n'empêche pas, mais malgré tout je trouve que les défauts c'est ce qui fait le caractère d'un son. Et nous, dans le style qu'on aime bien, c'est-à-dire de rock années 60, en fait, c'est plein de défauts, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'étaient pas du tout des pros, qui ne savaient pas forcément bien faire, qui utilisaient du matos un peu défectueux. Tu vois, c'est con, mais dans ce morceau-là, dans la pirogue, à un moment, il y a un son de fuzz, donc fuzz, pédale de guitare de distorsion extrême. On a mis exprès une pile usagée dedans, parce que du coup, la pédale ne réagit pas pareil avec une pile usée.
Ah ouais ? Ok.
Bah, oui, parce que ça, c'est un truc très connu, hein, des mecs qui geekent le son 60s comme nous. Hein.
Je me rappelais pas que ça allait aussi loin que ça.
Ah bah si, Geoffrey, il m'a dit, tiens, mets cette pile-là dedans, c'est bien, tu vois. D'accord. Et en fait, en effet, c'est vrai que du coup, t'as un son de velcro, un peu de... Ça donne pas la bonne tension à la truc, du coup, la pédale, elle réagit, elle bug un peu, et en fait, c'est ça qu'on cherche, quoi.
On était dans ce genre de pignol, tout à fait. Ouais, vrai travail sur le son. Non, mais c'est impressionnant. Franchement, j'y connais absolument rien, mais c'est passionnant. Enfin, on sent la passion.
Ah, bah, moi, c'est un truc qui me passionne, hein, de retrouver comment retrouver le son.
Les sonorités,
ouais. Bah, oui, retrouver. Enfin, je sais pas, moi, je suis un fan absolu des Beatles. Et en fait, la plupart des morceaux, ils ont toujours un son un peu chelou à un endroit qu'en fait, on ferait pas actuellement parce que on se dirait, putain, il y a un problème, quoi. Le tremolo, là, il est mal réglé, ou putain, le machin, il sature, laisse tomber. Je sais pas, t'écoutes Revolution des Beatles, le son de guitare, il est saturé sa mère dans une table de mixage, tu vois. Et en fait, c'est ça qui fait que si tu te rappelles du son, le morceau, il démarre, tu sais tout de suite ce que c'est. Tu vois, dans les deux premières millisecondes, tu sais déjà ce que c'est, quoi. Parce que c'est un son signature. Et je pense que les défauts, ça fait signature, en fait. Moi, je le vois comme ça.
Ok. Mais vous avez pas toujours fait un son 60s dans votre groupe, c'est pas...
Bah là, en tout cas, sur cet album, c'est la feuille de route. Globalement. Après, 60s, on peut toujours débattre de ce qui est 60s ou pas vraiment, hein, mais dans cet album, en tout cas sur Garage Love, c'est vraiment la feuille de route claire. Sur Garage Punk, donc la deuxième moitié de l'album, enfin le deuxième EP, c'est un peu moins 60s parce que dans la production, on a eu une approche moins vintage, c'est-à-dire qu'on a fait un truc un peu plus classique de prise de son et de mix. Mais malgré tout, quand même, en tout cas sur la composition, on est quand même vraiment dans ce registre. Hein. On fait vraiment des accords majeurs à la guitare, on fait des harmonies assez Beatles aux voix. Par contre, on chante en français, quoi.
Et le projet, c'était quoi, de faire un côté garage love, garage punk
Bon, c'est un peu la force des choses. Hein. C'était un peu, on avait cette EP enregistrée chez Geoffrey, qu'on voulait en faire quelque chose parce que voilà, c'est intéressant. On trouve ça super bien, mais peut-être pas le sortir tout seul. Alors on pouvait le sortir sur les plateformes, il est sur les plateformes d'ailleurs. Mais peut-être pas sortir sur un vinyle propre ou sur un disque propre, parce que ça fait que 4 chansons, c'est un peu léger. Là, un peu dans un souci d'économie et un peu écologique aussi, on s'est dit, on fait 2 EP sur un vinyle.
Ok.
Ce qui permet d'avoir, voilà, t'as 9 chansons, t'en as quelque part, t'en as un peu pour ton argent, mais enfin, c'est pas tellement le sujet, mais t'en as un peu pour... t'as un truc complet, quoi. En fait, c'est presque un album. C'est juste que c'est un double EP, parce qu'il a été pensé en double EP, c'est-à-dire que t'as vraiment une session d'enregistrement sur 4 titres et une autre session sur 5 autres titres, qui sonnent d'ailleurs pas du tout pareil. Quoi. Voilà. Après, on pourra comparer, hein. On peut comparer, d'ailleurs, on peut te comparer maintenant, mettre un morceau de garage.
Bah justement, c'est ce que j'allais vous proposer. Ouais.
Carrément.
Lequel vous voudriez passer ?
Eh ben, passons le premier, passons Dernier Cri, qui sort le fin février.
Et ben...
C'est un peu une exclue.
Trop bien. On se l'écoute ?
Allez.
We'll be right back.
Et on se retrouve dans la bulle mécanique. C'était le dernier cri de Karaboudjan, nos invités. Et ouais, c'est assez différent de ce qu'on a écouté avant.
Forcément, ouais. Bah, totalement, ouais. Bah, c'est sur le P Garage Punk, donc ça se tient.
Ouais. Moi, ça m'a réveillé.
T'as réveillé ?
Ça m'a réveillé, ouais. Je dormais pas, mais j'avais un petit coup de barre et là, ça m'a recalqué. Okay. Tel un café caféiné.
Ok. Oh. Du type caféine, quoi.
Du type caféine corsé, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais, bah en fait, ce morceau-là, du coup, si on compare avec la pirogue qu'on a écouté avant, du coup, c'est donc Garage Punk, le deuxième EP. Lui a été enregistré, donc pas de manière archi-empirique, années 60, comme Garage Love, mais donc un peu plus classique, mais en même temps, on fait jamais les choses de manière très classique, parce que du coup, il y a deux batteurs. Donc, si vous avez été assez attentif, vous avez entendu qu'il y avait une batterie à gauche et une batterie à droite, et qui se répondent et qui jouent ensemble pendant tout le long du titre, quoi. Et c'est ça surtout l'EP, hein, c'était un peu ce concept-là. Donc, on avait deux EP concept, un analogique vraiment années 60, et l'autre avec des morceaux qui avoinent un peu plus, avec deux batteries. Voilà, comme on fait en live sur les grosses dates.
Ok. Pourquoi cette idée d'avoir deux batteries ? Enfin, comment ça vous est venu ?
Bonne question.
Non, c'est assez original, je trouve. Alors,
The Ossies ou ça part de là ou pas,
partie,
pas
que... Oui, ça peut. Ouais, alors The Ossies, c'est un groupe que j'aime bien, enfin qu'on aime bien aussi, je pense. Qui est un groupe. En fait, à deux batteries, il y a vraiment. Il y a toute une mouvance de groupes qui jouent à deux batteries dans un registre très particulier qui est vraiment le garage psychédélique. On peut aller jusqu'à California, quoi. Mais évidemment, ça s'est pas fait que là. Mais en fait, il y a toute une tradition de garage rock à deux batteries, notamment les Grateful Dead, qui dès les années 60 jouaient à deux batteries. Mais c'était vraiment dans un délire de hippie défoncé au LSD qui jouait à deux drums et voilà quoi.
Ce qui n'est pas votre cas.
Ben non. Et non, pas tout le temps en tout cas. C'était un peu pour le délire, si tu veux. C'est toujours dans le délire d'aller dans un truc qu'on aime bien. Et puis deux batteries, il y a un truc qui est assez jouissif. Quand on le fait en live, il y a vraiment un truc cool.
Ah, les batteries qui se répondent.
Il y a un truc qui est vraiment sympa et qui est. Alors visuellement, il se passe vraiment quelque chose. Parce que tu regardes deux batteurs jouer en parallèle, c'est assez impressionnant. Ça a vraiment une gueule. Et puis en fait, ça envoie. Après, évidemment, ça pose des problèmes de musique. Certains auxquels on est confronté, c'est qu'en fait, en 2025-26. On n'est pas habitué à entendre ce qu'on appelle des flats de grosses caisses, par exemple. Donc, c'est-à-dire que c'est quand tu as deux coups de grosses caisses très rapprochées, quand tu entends tout.
Ouais.
C'est-à-dire que forcément, quand tu as deux batteurs qui jouent la grosse caisse en même temps, bah, des fois, c'est pas 100% rythme. Synchronisé à la milliseconde. Quoi.
Mais ça fait stresser les ingé sons au début.
Mais du coup, ils sont obligés de traiter le son un peu différemment, d'avoir un son légèrement plus d'ensemble, en fait.
Okay.
Parce que ça crée ça fait un son quand tu as deux batteries qui jouent même la même chose. Acoustiquement, t'entends pas ce côté flat parce que le flat tu l'entends quand tu mets des micros de très près, si tu veux.
D'accord.
Et là, en fait, t'es obligé d'adapter un petit peu la prise de son, mais ça te fait un truc qui ronronne un peu, ça fait une machine un peu.
Après, vous avez travaillé votre jeu de batterie par rapport à ça aussi.
Oui, après,
par contre, c'est un gros taf.
On se préoccupe du fait de pas.
Être décalé.
Pas avoir des mini décalages qui font que sur des prises de son avec des micros de très près d'épaule, ça peut être problématique. Du coup, ça permet d'avoir un truc un petit peu plus ouvert, en fait, aussi. Puis ça ronronne, enfin bon.
Okay.
Puis effectivement, visuellement, ça...
En fait, il faut vraiment différencier le studio du live. C'est qu'en fait, en studio, ça permet plus de choses. Mais en studio, tu utilises du coup quand même pas mal de sons de pièces parce qu'on est quand même toujours dans une esthétique garage années 60 et tout. Et en fait, c'est comme ça qu'on mixe ce genre de titre. C'est-à-dire que tu as beau mettre des micros proches des pots, tu sais, comme on fait classiquement, tu mets un micro collé à ta caisse claire parce que voilà, comme ça, tu n'as que ta caisse claire dans ton micro, tu vois, c'est logique. Mais en fait, c'était pas logique dans les années 60 parce qu'en fait, les mecs, ils pouvaient pas mettre autant de pistes qu'ils voulaient. Ils pouvaient pas mettre 10 micros sur une batterie. Ils avaient qu'un 4 pistes sur leur magnéto. Donc en fait, il y a 4 pistes, tu mettais 4 micros, c'est tout. En tout cas, avec deux batteries, t'as quand même un truc qui est toujours 60s, qui est quand même toujours là-dedans. Et après, en live, du coup, c'est complètement différent. Parce qu'en live, là, donc, bon, évidemment, visuellement, il se passe quelque chose. Et puis en fait, en live, t'es secoué, mais pas de la même manière que d'habitude. C'est-à-dire que t'as pas un kick hyper précis comme tu peux avoir dans une musique rock classique ou même dans un truc, par exemple, un truc un peu électro où t'as un kick vraiment très clair Mais là, en fait, t'as un truc qui, du coup, fait... Moi, je trouve qu'il y a une sensation un peu tribale, parce que t'as les kicks qui flattent un peu, les snares aussi, et puis, en fait, les jeux de batterie ont été... ils ont bossé, en fait, les gars, pour que... Enfin, j'espère. Ils ont bossé pour que ça se réponde, et que, voilà, ils font pas toujours la même chose. Il y en a un qui va faire le riff sur le tom bass, et l'autre, il va faire le riff sur le charlet, par exemple.
Okay.
Et en fait, les batteries sont aussi accordées plus ou moins pour que ce soit aussi... voilà, les deux tomes sonnent pas exactement pareil, qu'on puisse quand même les différencier. Enfin voilà, il y a tout un truc. Bah, c'est comme quand tu joues avec plus de musiciens, hein, c'est tout. Hein, c'est juste que c'est les batteurs.
Commence à parler d'accordage de batterie quand même.
J'ai pas relevé.
J'ai dit musicien, alors c'est des batteurs.
Et puis après, dans l'histoire de la musique plutôt rock ou blues, ou... Enfin, en fait, il y avait aux États-Unis, il y avait quand même ce truc qui se pratiquait beaucoup. C'était, tu vois, un batteur et puis un percussionniste. Mais et après, il y a pas mal de groupes qu'on voit hein, dans les années 60, 70, même encore aujourd'hui, dans le bayou, dans le monde plus du rock, un peu blues, etc. Ou des musiques mélangées, où finalement, tu te retrouves finalement à la fin avec deux batteurs, mais qui jouent un rôle un peu différent. Il y en a un qui a un rôle un peu plus de percussionniste, voilà. Du coup, ça permet aussi ça, c'est ce qu'on fait aussi dans Carabougeon, dans certains morceaux.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Mais
un peu plus orientaux, entre guillemets, où il y a aussi une derbouka sur des batteries. Du coup, tu vas avoir un des deux batteurs qui joue un truc très batterie et l'autre un truc plus de percussionniste, finalement.
Oui, c'est vrai qu'on a...
Il y a certains morceaux comme ça. Ouais.
Ouais. On a vraiment cette mou... Carabougeon, on a aussi les deux facettes. On a vraiment la facette rock orientale anatolien. En fait, c'est comme ça qu'on définit, parce qu'en fait, moi, je joue du saz, qui est un luth turc. Ouais. Et en fait, dans Carabougeon, j'alterne entre la guitare et vraiment voilà, des morceaux rock 60s, machin, et des morceaux plutôt rock anatolien. Mais en fait, le rock anatolien, c'est vraiment un truc... Alors là, on est encore plus dans la niche, hein, mais on est là pour ça. C'est vraiment une mouvance de rock des années 60 en Turquie, et qui a eu vraiment un gros impact sur la scène psychédélique mondiale. Et il y a vraiment ce truc donc, de saz utilisé à la place de la guitare, hein, c'est leur guitare à eux si on veut quoi. Mais du coup avec les quarts de ton et vraiment les musiques vraiment orientales, c'est vraiment très typé. Et du coup on fait un peu de ça quand même. Et c'est vrai qu'avec les deux batteries ça marche super bien. Quand moi je suis au saz et qu'en plus Phil est plus en batterie derbouka percu et que Orso le deuxième batteur vraiment batterie rock, et ben en fait on a un truc qui se mélange extrêmement bien et ça marche très très bien sur ces morceaux là.
Et du coup pour illustrer tout ça justement tu venais nous passer...
Eh ben oui, je propose qu'on écoute Yerevanum, qui est le premier single qu'on a sorti après l'EP La Lagune. Donc, ça a dû sortir en 2024. C'est notre premier single sur le label La Couveuse,
okay,
qu'on embrasse, hein, qui nous font le plaisir et je sais pas quoi de nous diffuser, en tout cas, de nous aider beaucoup. C'est un morceau donc, qui est joué au saz, donc, qui est plus dans l'esprit de ce que j'expliquais avant. Voilà. Donc, c'est un saz électrique que vous allez entendre, il n'y a pas de guitare dans ce morceau, sauf que c'est un saz électrique, donc il sonne un peu guitare électrique, mais si vous êtes un peu attentif, vous entendrez que ça ne sonne pas vraiment guitare, qu'il y a des sonorités qu'on pourrait, au premier abord, si on n'est pas musicien, se dire « tiens, ça sonne un peu faux peut-être », alors qu'en fait, c'est donc des quarts de ton, c'est comme si tu avais des notes entre les notes du piano. C'est un truc qu'en musique occidentale, on ne connaît pas.
Okay.
Mais qu'au Moyen-Orient et puis encore plus en Inde, ils en ont encore plus quoi. C'est vraiment un truc, ben, ça évoque un peu ces sons là, vous allez voir, je pense que ça, en parlant un peu d'Inde et de Moyen-Orient, ça devrait vous parler.
Ok.
Et ça chante un peu en arménien d'ailleurs dans ce morceau.
Ah ouais, ok.
Voilà.
Tu nous en parleras aussi après et Tom, tu nous donneras ton avis sur... Ah,
j'ai hâte de l'écouter ce titre.
C'est parti.
Yeah.
Et c'était Yere...
Yerevanum.
Voilà, exactement. Tu peux le refaire ?
Yerevanum, voilà. Simplement le Erevan, hein, la capitale de l'Arménie.
D'accord, ok. Et du coup, on a bien reconnu que tu chantais en arménien de temps en temps. Tom parle couramment arménien, donc tu vas pouvoir nous traduire.
Je ne vous entends pas.
Je passe sous un tunnel.
Attendez, j'ai pas mis le sonotone, non.
Ouais, bah alors l'arménien, là-dedans, c'est un peu une blague, hein, c'est que... On parle pas arménien, hein, c'était vraiment du, c'est de l'arménien level archi débutant Google Traduction.
C'est, hein, du yaourt.
Voilà. Bah, c'est pas vraiment du yaourt, c'est des vrais mots, mais voilà. C'était, okay. Non, c'était pour aller dans le délire, pour aller vraiment dans le truc, quoi. On joue du saz, machin, on est sur un morceau un peu plus world que ce qu'on a écouté avant. Voilà, c'était pour aller au bout du truc. On fait ça un peu des fois dans quelques morceaux. Il y a pas beaucoup, mais il y a quelques trucs. On aime bien la sonorité. Il y a un truc qui rappelle Karaboudjan, en fait. Voilà, si vous voulez partir de là, c'est que Karaboudjan, c'est le nom du bateau du capitaine Haddock dans Tintin.
C'est vrai que je vous ai même pas demandé. Ouais.
Mais en fait, Karaboudjan, la première réplique de Tintin quand il entend Karaboudjan, c'est un nom arménien.
D'accord.
Voilà.
En fait, vous avez beaucoup de référents justement dans ce domaine un petit peu, bon, pas de la piraterie, mais plus.
Bah de Tintin en tout cas. Vraiment. Ouais. Bah dans ce morceau, ouais, on parle des boîtes de crabes, c'est un truc qui revient souvent. En fait, dans Karaboudjan, on essaye d'avoir un espèce, enfin en tout cas moi, dans les paroles, j'essaye d'avoir un univers un peu cohérent, si tu veux. Il y a pas mal de chansons qui s'auto-répondent et qui, ouais, il y a un espèce de lore Karaboudjan, on peut presque dire. Et en fait, du coup, on imagine pas mal les histoires autour de ça. C'est vrai que ça m'inspire pas mal. Et puis, en fait, c'est assez libre. En plus, on peut aller où on veut. L'idée, c'était que le Karaboudjan, donc c'est le cargo dans lequel ils trafiquent l'opium dans les boîtes de crabes. Et ce qui explique un peu tout le côté psychédélique et tout le côté voyage avec le cargo et machin. Et tout se recoupe, quoi.
C'est un grand voyage, Karaboudjan.
Intérieur.
Un grand voyage intérieur.
À la preuve, là, j'ai beaucoup voyagé dans ma tête. Je me suis senti partir jusqu'en Inde. Alors, le son précédent m'avait donné l'effet caféiné. Là, ça m'a plus donné un effet tisane. Ça m'a un petit peu plus reposé. Et voilà. Et donc, Karaboudjan tient bien son nom. Et on voyage à bord d'un cargo pour se retrouver à l'autre bout du monde, jusqu'en Inde.
Tu connais, ouais. Tu parlais de tisane. En plus, il y a un titre.
Tisane aux orties,
ouais.
Ah oui. C'est important, très important, la tisane aux orties.
Pourquoi tisane aux orties?
Ouais, c'est un titre dans Garage Punk, c'est le dernier titre, ouais, c'est le marathon final de l'EP. Ça dure 7 minutes 30. 7 minutes 30 de gros rock'n'roll avec des grosses influences orientales quand même, hein, malgré tout. Hein, il y a quand même des grosses parties au saz dans le morceau. Je sais pas si on l'écoutera peut-être tout à l'heure.
7 minutes, ça risque d'être compliqué, mais je propose justement de faire un petit rappel justement de là où on peut retrouver vos sons.
Ouais, bah, de toute façon, celui-là n'est pas encore sorti.
Les plateformes.
Mais ouais, bah, nous, on peut nous écouter sur les plateformes, hein, évidemment. On est sur toutes les plateformes de streaming. Le P Garage Love est sorti le 12 décembre.
Ouais.
Donc celui-là, vous pouvez l'écouter entièrement. Donc les 4 titres. Et puis après, les prochains titres donc, de Garage Punk arrivent sur les plateformes tous les 2 mois à peu près. C'est bossé avec le label. Tous les 2 mois, il y a un nouveau morceau. Après, nous, ce qu'on défend, c'est l'objet, quoi.
Ouais.
Pas qu'on soit matérialiste, hein, mais en fait, on défend l'artisanat. Enfin, moi, j'ai un peu cette vision... cette vision artistique d'un artiste comme d'un artisan qui bricole ses chansons dans son coin et qui à la fin a quand même un truc à vendre, oui, mais on s'en fout de le vendre parce que c'est pas ça qui va nous faire
un bel objet à proposer, mais un
truc qui a une histoire et qui est palpable. Je trouve que le streaming c'est pas palpable, je trouve que il y a un côté virtuel qui m'intéresse moins. Alors on le fait évidemment, parce que c'est quand même une chance de pouvoir être écouté n'importe où sur la planète facilement en 2 clics, mais il y a aussi 100 000 nouveaux morceaux tous les jours sur Spotify. Donc,
On prend moins le temps aussi de se concentrer sur un artiste, je trouve, et on fait une playlist avec un morceau de chaque
artiste. Bien sûr, et puis nous, on est dans un délire un peu rock vintage où en fait l'album a un sens.
Ouais,
où même nous, chaque EP est concept. Là, on a deux EP et c'est deux concepts différents. Nous on est attaché à ce truc là, à l'objet évidemment, mais surtout voilà, au côté il y a une histoire qui est racontée avec un début, un milieu, une fin, quoi. Et puis là en l'occurrence un concept différent dans chaque truc, quoi. Et puis donc nous on a tiré l'album dans différents formats, on a fait des vinyles, c'était vraiment le format qu'on voulait. Alors pour Garage Love c'était vraiment c'était vraiment l'aboutissement, parce que Garage Love ça a été enregistré en analogique, mixé en analogique, donc il a mixé ça sans ordinateur, hein, il a mixé ça en passant ça dans sa console.
Vraiment un retour.
Ça dans sa console, en passant dans son hardware, dans ses compresseurs, dans ses machins, et à la fin il a figé ça sur une bande. Voilà. Donc c'est vraiment. Et du coup la suite logique de ce truc là c'est de graver un disque, comme ça il y a que de l'analogique qui est passé dans la chaîne. Sans mentir, on a fait un peu d'ordinateur pour enregistrer au départ, mais en fait à partir de l'enregistrement, tout est après c'est fait en analogique. On a même gravé ça au studio, au Biduloscope Mastering, où le mec nous a gravé la LAC en direct, donc ça passe dans ses machines et ça grave instantanément la LAC, donc ce qui servira après à dupliquer pour faire des vinyles. Après Garage Punk, moins analogique et tout, mais en tout cas on voulait pouvoir le mettre sur un vinyle. C'était vraiment, c'est vraiment le format qu'on voulait, quoi. Alors après on a aussi un CD évidemment, parce que c'est pratique, un CD ça se donne, ça coûte pas cher à faire, c'est, pour les radios c'est bien.
Et ça passe partout.
Ouais. Ça passe partout, même si de moins en moins de gens ont des lecteurs CD. Hein,
Dans les voitures il n'y en a plus.
Il y en a de moins en moins, bien sûr. Mais il y en a encore, mais c'est surtout que c'est un petit... Mais tu vois, je préfère largement le vinyle, ne serait-ce que pour la pochette. On peut parler de la pochette en fait, c'est un artiste, un ami à nous là, qui s'appelle Tony Leclay, qui habite à Toulouse, qui nous a fait ça, et c'est du garanti 100% sans IA, il nous a fait ça à la main, quoi. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, moi j'adore acheter des vinyles, je suis un passionné, et il y a ce truc de, en fait, j'aime, des fois t'achètes un truc juste parce que la pochette te plaît, et en fait tu sens que l'histoire qu'elle projette te parle, en fait. Et je trouve que c'était... Enfin, moi, je suis trop content d'avoir un bel objet. Et là, en fait, on a deux pochettes qui se répondent. On a Garage Love, si je peux décrire vite fait, vous irez voir sur Internet. Mais Garage Love, qui est vraiment psychédélique, avec des couleurs un peu vives et tout, avec le bateau qui vole au-dessus de la mer et un ornithorynque violet qui fume une clope devant. Et de l'autre côté, on a Garage Punk, où là, c'est carrément le chaos avec des mines et la mer qui est complètement énervée et des couleurs rouges, où là, on est dans la tempête, clairement, quoi. Et c'est la même pochette pourtant, le bateau est au même endroit, elles se répondent un peu en miroir, il y a vraiment un concept aussi sur le visuel. Alors ça paraît évident, évidemment que t'adaptes le visuel à ce que tu fais, hein, c'est logique, mais du coup, le fait de l'avoir en physique, juste l'objet est beau, donc même si t'as pas de lecteur vinyle, tu peux acheter le vinyle parce qu'il est cool.
Je confirme, achetez-le. Et il y a aussi des cassettes.
Et il y a les cassettes, bien sûr. Et là, les cassettes, c'était pour aller encore dans le délire, parce qu'en fait, on aime bien les objets, et en fait, on trouvait ça cool, et en fait, on a trouvé on a trouvé un gars qui s'appelle Stellar Tapes, et en fait lui fait le pressage cassette, donc c'est lui qui presse l'audio sur les cassettes, sur les bandes, et en fait lui il a tout un concept où il peint sur les cassettes directement. Donc en fait, ce qui fait que chaque cassette, en fait, il les trempe dans un liquide avec des touches de peinture et il met des couleurs qui vont bien avec la pochette.
Donc chaque cassette est unique.
Voilà, chaque cassette est unique, exactement. Et en plus, on a deux modèles de cassettes. On a le modèle Garage Love avec le visuel Garage Love et la cassette peinte aux couleurs de Garage Love. Et la cassette Garage Punk avec le visuel peint aux couleurs de Garage Punk. Mais le contenu audio est le même dans les deux. Il y a 9 chansons dans chaque cassette.
Ok, et on peut faire peut-être un peu de pub pour l'endroit où on peut les acheter.
Et ben l'endroit où on peut les acheter, c'est sur notre boutique Hello Asso,
okay.
Ou en MP sur Insta, réseaux sociaux, Facebook, ce que vous voulez. Enfin, vous nous envoyez un message, on vous envoie.
Nous, on mettra tous les liens de façon sur la page de Culture Mécanique en annonçant l'émission, comme d'habitude.
Ok, trop bien.
Je voulais parler aussi de vos dates, vos prochaines dates, peut-être que vous en avez.
Alors là, on est un peu dans un creux là, parce qu'en fait, on re-rentre en studio prochainement pour préparer la suite, parce qu'on essaie de prendre de l'avance, un truc qu'on n'a jamais fait. On rentre en studio là à partir de février-mars, là, on se met sur l'album d'après.
D'accord.
Mais voilà, juste sur l'enregistrement, hein, ça sortira pas avant 2027, peut-être même 2028, j'en sais rien.
Okay.
On verra avec le label. Mais du coup là forcément, et puis c'est l'hiver, de toute façon c'est la période un peu plus creuse, de toute manière ça reprendra cet été. On a quelques dates de Calais, notamment voilà, une date à Sedan au Shop & Rock, on a une date au festival L'Arsenal Rock qui est une belle date parce qu'il y a, y a des gros artistes à l'affiche, une date à Lens dans un bar, bon voilà, on a quelques trucs, on n'a pas énormément de choses mais on annoncera la tournée je pense au printemps de toute façon.
Ok. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors à Karaboudjan pour finir?
Je sais pas, d'être bien dans ce qu'on fait, c'est tout en fait.
Okay. Une question nulle. Mélanie la pose mieux, mais elle était pas là.
Non, mais c'est pas du tout une question nulle en fait. C'est juste que. Comment dire? On n'est pas dans une. En fait, moi, ce que je peux. Tiens, si on peut faire des vœux 2026. Voilà. Ce que je souhaite, c'est que les gens. Comment dire? En tout cas, dans la musique, ce que je peux souhaiter, c'est d'arrêter de courir après, après des chimères, en fait. D'arrêter de se prendre la tête sur, par exemple, on l'a pas mal fait, hein, je le sais, hein, mais de courir après des streams ou des machins, et en fait, qui sont pas réels. C'est ça que je veux dire, de se reconnecter un peu à ce que c'est la vie réelle, et de voir des gens en vrai, de parler à des gens en vrai, de jouer devant des gens en vrai, et d'avoir un disque dans les mains, plutôt que de faire une playlist avec le morceau que t'as aimé de chaque truc. Mais après, y a pas de jugement, tout le monde fait ce qu'il veut, et tout le monde écoute la musique de la même manière. Mais la musique, elle s'écoute, elle se consomme pas. C'est ça que je veux dire.
C'est beau. Voilà. Je suis d'accord.
Et vous retrouvez plus, vous retrouvez plus d'épanouissement dans les enregistrements studio, ou plutôt en live?
C'est deux trucs vraiment différents. Pendant des années, moi, j'ai toujours dit, avec d'autres groupes aussi dans lesquels on joue, toujours dit, on est des groupes de live. Nous, on fait que du live. De toute façon, on fait Karaboudjan depuis le début du groupe. On a fait une centaine de concerts. On est tous intermittents depuis des années. C'est notre métier. Donc, en fait, nous faire du live, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait manger, quoi. Clairement. Donc, le live, clairement, on peut pas s'en passer parce qu'en fait, c'est pas avec les 58 euros de streaming qu'on fait par an qu'on va faire quoi que ce soit.
Ça rapporte si peu le streaming.
Ça rapporte que dalle le streaming, mais ça, c'est pas une nouvelle.
Ouais.
Ça rapporte quand tu fais des millions de streams, quoi. Mais en fait, en plus, on fait du rock vintage, machin. On fera jamais des millions de streams.
Ça rapporte à la plateforme.
Alors voilà, en plus,
ça a une grosse marge.
On peut parler des plateformes hein, si on veut. Hein.
Ah bah allez.
On peut parler de Spotify qui font des trucs dégueulasses. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y a des plateformes hein, qui font le job. Hein. On peut parler de Qobuz, qui est une plateforme française qui rémunère des artistes, qui fait de la très haute qualité. Là, eux, ils ont rien à se reprocher.
Ouais, c'est par bien contre, de faire un peu de promo du coup.
Qobuz, très bien. Deezer, c'est bien aussi. Deezer, c'est moins bien, mais c'est bien. Spotify, non, c'est pas bien.
Okay.
Spotify, c'est la mort des artistes, c'est l'IA à fond tous les jours, 10 000 nouveaux titres en IA publiés chaque jour, qui sont poussés dans les playlists éditoriales de Spotify, alors que il y a aucun vrai humain qui a bossé sur le truc. C'est Spotify, le PDG de Spotify, il a dit que les gens n'avaient pas envie de faire de la musique. Il a dit les gens sont contents d'avoir de l'IA pour pouvoir faire de la musique facilement. Personne n'a envie d'apprendre à jouer de la guitare, il a dit. Donc bon, à un moment...
c'est triste.
Voilà. C'est vraiment le capitalisme au service de la musique, quoi. Ou la musique au service du capitalisme, j'en sais rien, mais c'est tout ce que moi, j'aime pas, personnellement.
On est d'accord. C'était bien de le rappeler, hein, pour une fin d'émission, c'est cool. Moi, je vous propose qu'on se quitte sur un dernier morceau, à part si vous aviez quelque chose à rajouter, Caribou Jean ou Tom.
Bah, je sais pas trop. Continuer de, ce que je peux dire, c'est que de continuer de soutenir les artistes locaux, les radios locales, en fait, les initiatives locales qui font du bien et qui créent du lien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre et que on a besoin de cultiver partout, parce que c'est ça qui fera qu'à un moment on peut s'en sortir et en fait arrêter de se taper dessus et peut-être éviter l'extrême droite, par exemple. Donc voilà, bah, je sais pas qu'est-ce qu'on peut écouter. On peut écouter un morceau de Garage Love. Qu'est-ce qu'on en pense, Papagaï? Désert. Désert. Allez, Désert, il vient de sortir.
Allez.
Ok, on s'écoute Désert, on se quitte là-dessus.
Ouais, allez.
Merci d'être venu, franchement, c'était cool.
Bah, merci beaucoup. Merci de l'invitation, et puis lâchez rien, et on se voit une prochaine fois.
En live.
Carrément.
Tom, à la prochaine.
À la prochaine. Certainement à Lens, je viendrai peut-être vous voir.
Allez.
Cool. Le 3 mai, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. J'ai bien retenu.
Allez, des bisous, à la prochaine.
Salut.
Allez, ciao. Allez.
J'ai crevé mon dromadaire. Me reste plus une goutte de flotte. J'ai plus qu'à essayer de me faire des potes. Des putains de potes. Dans ce putain de désert. Et dire que j'ai évité la guerre. Pour finir par causer au cactus. Avec un dromadaire comme abribus. Aux putains de portes. J'ai garé mon dromadaire en double fil de coton. Du coton de cactus sur le front. Une putain de fièvre dans ce putain de désert. Et quand je repense à Jacques Prévert ou Charles Rimbaud, j'oublie celui qui vendait des armes en Somalie au putain de tueur. Des putains de déserts. Putain, mais putain de pote. J'ai fumé tous mes chameaux, c'est clair. Me reste plus une goutte de cactus. Je rejoins Lucie dans le ciel sur Uranus. Une putain d'histoire dans ce putain de désert. Ouh, ouh.